Bonjour, bonjour, bienvenue sur Radio Medium numéro 26. Nous sommes le lundi 16 mars 2015. Vous écoutez bien Radio Diwa sur le 107.5 ou sur rdwa.fr et vous retrouvez aussi cette émission en podcast. Bonjour Latika, bonjour Yannick.
Bonjour tout le monde.
Ouais. Bonjour.
Et bonjour Patrick en studio, mais sans micro pour l'instant. Tu n'hésites pas à intervenir quand tu veux.
Donc nous sommes aujourd'hui avec Yannick Loyer, qui est un chanteur et musicien du Diwa et qui a deux récitals, un récital de chants sacrés et un récital de chants du Caucase, de la tradition soufie, tchétchène et de la tradition aussi mingrélienne. En fait, c'est une partie de la Géorgie. Tu nous expliqueras tout ça.
On y reviendra plus D'accord. tard dans l'émission. Ouais.
Et tu es donc chanteur, musicien. Yannick est aussi voyageur et tu as fait notamment un voyage récemment en Géorgie où des chants ont été transmis.
Alors, oui. Donc des chants te sont transmis, mais toi-même tu transmets aussi tes chants.
Tout à fait, oui, je ne suis qu'un passeur. On me donne des chants, j'apprends des chants et je les communique à d'autres pour que tout ça soit fluide, que nos cultures se comprennent mutuellement. Voilà.
Alors on peut en parler tout de suite, est-ce que tu donnes des cours ?
Oui, je donne des cours, j'ai donné des cours là. Je suis rentré tard de Géorgie, hein, donc fin octobre, et la plupart des gens sur 10 avaient déjà opté pour des activités. Donc j'ai peu d'élèves cette année. L'année dernière, j'en avais beaucoup plus dans le cadre de soirées de chants sacrés de 3 heures chez moi, à Bonneval, aussi dans le Trièves aussi. J'anime aussi une émission qui s'appelle Vibratia Chorus.
Et ben on en parlera à la fin de l'émission, mais c'est vrai que les auditeurs, auditrices de Radio Diwa attentifs et attentives auront reconnu ta voix, cette nouvelle voix sur Radio Diwa, mm-hmm. les vendredis soirs, mais on y reviendra.
Ouais.
Les voyages, si on parlait un peu de ces voyages. Toi, tu as collecté des chants sur les lieux où ils sont chantés habituellement.
Oui,
tu profites aussi des voyages des autres vers nos régions.
Oui, tout à fait. Je me suis formé au travail du chant par le biais de différents professeurs qui vivent en France et qui sont allés eux-mêmes chercher ces chants à droite à gauche. Oui, il y a un bilan carbone respecté quand on est dans la spiritualité aussi. On essaie de minimiser, moi en tout cas j'essaie de minimiser cet impact-là. Donc j'ai pu me former au départ avec Barbara Pchirova qui habite sur Die et qui faisait partie de l'ensemble Cantilam dont je faisais partie aussi avec Yachérim, avec Richard et Myriam. Donc Barbara m'a transmis des chants tchèques, slovaques et ukrainiens. J'ai aussi un professeur qui s'appelle Boris Cholevka, qui est d'origine ukrainienne, qui vit dans le Morvan. Et pendant 2 ans, il a été formé par Sœur Marie Kérouz, il est allé en Inde aussi. Et donc pendant 2 ans, il m'a transmis des chants, des techniques vocales. Ou aussi Igor Resnikov pour les amateurs de chant, c'est aussi une figure emblématique des chants du monde, des chants sacrés du monde. Lui travaille particulièrement sur l'église orthodoxe russe et sur l'église romane du haut Moyen-Âge, donc des chants du 9e, 11e siècle. Il y a aussi Anas Habib, avec qui j'ai fait quelques concerts, qui m'a transmis des chants arabo-andalous du pourtour méditerranéen. Lui aussi est allé au Liban apprendre les chants, et avec Sœur Marie Kérouz, et avec d'autres professeurs au Liban et Palestine.
Et donc tu es venu avec des instruments, et oui. On fait une émission donc, avec aussi des chants, plusieurs chants. Et donc on va commencer par un chant de Perse.
Oui. Oui, c'était une introduction. C'est une introduction. On vous en dira plus après.
Ouais.
Donc, je vais vous faire un chant perse d'un maître soufi, Jalal al-Din Rumi, un poème en perse du XIIIe siècle, qui parle d'amour, évidemment. en spiritualité, c'est quand même une préoccupation importante. Donc je m'accompagne de mon Shruti Box d'Inde, qui est un instrument très utile pour le travail du chant. Konakandam kenashinam dar ewanmanato Beren aksobadu asurat beyeke canmanato Manoto bi manoto jam shaema sarezak Kwashofarek shikhurafat apareshan manoto Heureux le moment où nous serons assis dans le palais, toi et moi, avec deux formes et deux visages, mais une seule âme, toi et moi. Toi et moi, unis dans l'extase et la grande joie, avons abandonné les absurdités et les non-sens, toi et moi. Konakandam keneshinam dar ewan manato Bedan aksho bada surat beyeke can manato Manato bi manato cam şave masarezak Kaşo farek şekurafat
Un chant de la Perse, zoroastrienne peut-être, enfin, ou en tout cas, on a cette tradition qui vient de là.
Oui, je souhaitais commencer par un chant de Perse, bon celui-ci est soufi, hein, mais puisqu'il est du 13e, encore que ce n'est pas antinomique, mais c'est la Perse est le berceau du zoroastrisme, qui est la première religion monothéiste. Cet été, Michel Witzel, qui est un chercheur en mythologie, a édité un livre sur les mythes, bon, les mythes sous toutes leurs formes, mais si on considère que les religions sont des mythes, il a expliqué qu'en fonction de du peuplement de la planète, au départ donc en Afrique, l'Afrique était donc une terre au niveau géographique et climatique d'éternel recommencement. Et les premières migrations humaines ont conduit les peuples par l'Égypte en Perse. Et ce déplacement dans le temps sortait d'un cycle journalier. Et donc la notion de temps, de début, de fin est née. Et en même temps, la notion d'un seul dieu. Donc Zoroastre. Et de par cet état dans la plaine de l'Euphrate, la grande migration juive qui était polythéiste à l'époque et allait tirer ses racines du monothéisme là-bas en Perse. C'est aussi la naissance, enfin la base du christianisme et de la religion musulmane. C'est donc un endroit très important et j'avais envie d'en parler aussi aujourd'hui puisque c'est actuellement un lieu de tension où, après Babel, se retrouvent à nouveau et les Américains et les Kurdes et les Juifs et les chrétiens d'Orient et d'Occident et les Slaves aussi à leur façon par le biais des Tchétchènes, mais on pourra en parler plus tard, tout se retrouve là à nouveau. Et c'est le berceau des derniers, c'est aussi l'endroit où vivent les derniers chrétiens, une bonne partie des derniers chrétiens d'Orient qui ont été décimés par Saddam Hussein. Et c'est là aussi où le peuple kurde qui se situe entre la Syrie, premier pays musulman, et l'Arménie, un des premiers pays chrétiens, puisque les Arméniens sont chrétiens depuis le 3e siècle ou 2e siècle. Tout se joue là en ce moment.
Oui, moi j'avais envie de dire, c'est vrai, dans ces zones où habitent les Kurdes, tant bien que mal, s'inventent aussi des formes de démocratie nouvelles. Si qui peut-être donnent de l'espoir, ou si on les laisse survivre, ou si ils arrivent à résister, on aura beaucoup à s'inspirer de ces, voilà, de cette forme de démocratie qui est beaucoup plus dont on aurait à apprendre,
plus
même
actuelle.
dans notre beau pays.
Oui. Mais j'avais très envie de partir dans cet endroit bientôt, au Kurdistan. Et j'ai un ami, Mourad, qui est producteur de grands musiciens d'Asie centrale, qui est turc, qui m'a fortement déconseillé, parce qu'en ce moment, on n'en entend pas parler, mais dans cette partie kurde de Turquie, il y a de grandes, grandes tensions, des manifestations, des gens qui descendent dans les rues tous les jours, quoi. Et puis inutile d'expliquer ce qui se passe en Syrie ou en Irak en ce moment, de ces pays, de cette couronne verte, de ce croissant vert qu'on a pu apprendre quand on était enfant en histoire ou en géographie. Seule la partie iranienne actuellement est entre parenthèses calme.
Donc on remonte un peu le temps pour un autre chant là, avec un chant des premiers chrétiens, c'est ça ?
Voilà,
un chant syro-maronite.
Ah, oui. Donc je vais vous proposer un chant, puisqu'on vient de dresser le tableau d'une situation mondiale actuelle où le nouveau né des cendres de l'ancien qui ne s'est pas encore consumé. J'avais envie de vous chanter un chant qui s'appelle Yaunot Lito et qui dit: une jeune colombe portait sur son dos l'aigle des jours anciens. Elle faisait attention à lui et chantait des gloires à l'amour.
Part maintenant un petit peu sur la Géorgie, parce que tu voulais nous expliquer ce terme de mingrélien.
Oui.
Qu'est-ce que la mingrélie ? Et puis peut-être aussi annoncer un concert où tu vas chanter ces chants-là, c'est ça ?
Oui. Mmh. Alors déjà, qu'est-ce que la Géorgie vient faire dans cette histoire ? Donc on est la Géorgie est le troisième pays après la Syrie qui adoptait la religion chrétienne. Donc juste après l'Arménie, et on trouve en Géorgie des églises qui datent du IVe siècle. La Géorgie est un pays au carrefour de l'Europe et de l'Asie, puisque on a deux chaînes de montagnes, donc le Grand Caucase et la Transcaucasie. Qui coupe un peu la Géorgie en deux avec un col à 1400 mètres. Donc d'une part un versant mer Noire qui est fortement influencé d'une culture grecque et turque, et une partie mer Caspienne, donc sur l'Orient, qui au niveau géologique, géographique, climatique, c'est déjà aussi complètement différent. C'est une steppe semi-aride où les invasions perses ont été nombreuses, et ainsi que mongoles. Et donc on se retrouve avec une culture qui est aussi différente. Donc en Géorgie, actuellement, se trouve une population d'une 10 000 personnes à peu près de Tchétchènes qui ont fui il y a 150 ans le tsar de Russie. Et donc ces chrétiens aussi ont adopté la religion musulmane pour se différencier de la culture slave. Et donc une partie des gens sont restés en Tchétchénie et une petite partie, donc ces 10 000 personnes, sont venues en Géorgie. Ils ont, alors c'est là que aussi la magie opère, c'est que ces 10 000 personnes sont arrivées dans une vallée, la vallée de Pankisi, qui était un endroit désert, parce que la population musulmane ossète, qui est aussi une minorité du Caucase, avait quitté les lieux et qui avait été décimée par la peste. Et bien avant, des Géorgiens vivaient là, qui ont été capturés par les Perses pour aller défendre l'Empire perse contre les invasions barbares et tsaristes. Et donc, on retrouve aussi des Géorgiens, en petite parenthèse, des Géorgiens dans ce croissant vert, dans cette plaine de l'Euphrate, des Géorgiens qui parlent encore géorgien il y a 250 ans. Ou 300 ans. Et donc ces Tchétchènes qui vivent en Géorgie sont arrivés il y a 150 ans et ont gardé une bonne partie de la tradition tchétchène, ont aussi sont des gens très très pacifistes et qui ont donc qui sont très ouverts, qui ont une religion musulmane très très ouverte, dans le sens où les femmes sont peu voilées et où le mariage entre chrétiens et musulmans n'est pas un problème. En fait, dans mon travail artistique, je mets le point, et c'est le cas aussi de notre formation Aznach Ensemble, nous mettons le point entre culture musulmane et chrétienne, entre chant musulman et chrétien, pour que nous puissions chanter ensemble en même temps des chants musulmans et chrétiens. Par exemple, avoir un bourdon musulman sur un Alléluia. Et donc voilà, ce qui m'intéressait dans ce voyage, c'était de rencontrer ces gens pour voir ce qu'il était possible. Et j'ai eu cette grande chance que l'on me transmette, ça ne se fait pas du tout chez les Tchétchènes, que l'on me transmette ces chants tchétchènes en tant que musicien et pacifiste et amateur de religion musulmane, tout comme de religion chrétienne ou bouddhiste, surtout taoïste. Donc voilà, j'ai pu avoir collecté ces chants. Je suis un peu le seul dépositaire, m'a-t-on assuré, en Europe, de ces chants. Donc voilà pour la partie tchétchène. Et donc Latika, tu me posais la question aussi sur les chants de Mingrélie. Mmh. Oui. Mmh. Alors la Mingrélie, donc les chants qui font partie aussi de ce récital, la Mingrélie est l'ancien royaume de Colchide. en Colchide, c'est donc sur la mer Noire. Et donc l'influence européenne est forte. Nous avons donc la Grèce et la Turquie qui ont beaucoup influencé. Et on retrouve des mythes comme le mythe de Jason et la toison d'or. C'est en Mingrélie, dans cet ancien royaume de Colchide, que ça se passait. Et il y a aussi le mont Kazbek qui n'est pas loin, qui fait un peu la limite avec cette partie orientale et la Tchétchénie et tout ça. Donc le mont Kazbek, un des seuls volcans du Caucase où Prométhée a été enchaîné, puni par les dieux pour avoir volé le feu aux dieux et l'avoir donné aux hommes. Et donc voilà, c'est pour dire que la Colchide, qui est différente, fait partie de notre culture un peu européenne. J'y ai collecté, et je chante dans mon récital, un chant qui m'a complètement fait vibrer la première fois que je l'ai entendu, qui m'a donné des frissons partout. C'est un chant sur la mer Noire, qui était au départ un lac. Et il y a 7000 ans, suite à un tremblement de terre, le Bosphore s'est ouvert et l'eau de la Méditerranée s'est déversée pendant 2 ans dans ce lac de la mer Noire. Et l'eau montait, avançait à la vitesse, à certains endroits, à la vitesse d'un homme qui court pendant 2 ans. Et il y avait beaucoup de gens autour de ce lac et les gens ont dû fuir, il y a eu des inondations terribles. Ça a traumatisé la culture de cette région-là, au point d'intégrer cela au zoroastrisme et à nos religions monothéistes sous la forme du déluge. D'ailleurs, le mont Ararat en Arménie se trouve à mi-chemin entre Jérusalem et la mer Noire. Voilà. Et donc, voilà, j'ai dans mon répertoire quelques chants de Mingrélie que je chanterai bientôt. Oui.
Donc peut-être on peut préciser maintenant l'heure et la date et le lieu où on pourra entendre ces
chants de Mingrélie. Oui, alors déjà vous pouvez l'entendre sur YouTube, hein, sur ma chaîne Yannick Loyer. Bon, il y a un jeune batteur et puis à moi. Donc vous pourrez trouver ces chants. Il y a plusieurs chants qui illustrent mes propos d'aujourd'hui. Le prochain concert que je donne sera dans mon village pour le 21 juin, samedi prochain.
Le 21 mars.
Le 21 mars, pardon. Oui, le 21 mars prochain. Et on,
samedi 21 mars.
Voilà, à l'auberge. À Boulk, oui. Nous faisons à partir de 19h une sorte de petit apéritif j'animerai musicalement, enfin où je ferai mon récital en fonction de ce qui se passera. Et...
Réservation conseillée ou on peut venir à l'auberge?
Ah, vous pouvez venir à l'auberge comme ça.
Sans réserver.
Oui, sans réserver. Bon, après, pour les gens qui veulent être sûrs de pouvoir y trouver une place, comme ce n'est pas la porte à côté, vous pouvez toujours les appeler. Mmh. Oui. Il y a quelques affiches. Le numéro de l'auberge, je vais vous le donner puisque je l'ai en tête. C'est 04 75 21 12 94. Et donc c'est samedi prochain à partir de 19h. Je ne sais pas, je vais chanter 1 heure, 2 heures. Moi j'aime bien chanter, donc on verra bien.
On profitera de la page internet de Radio Medium qui sera en ligne dès après l'émission pour rappeler ces informations à toute fin utile.
Super.
Il m'était venu une question mythologie encore qui me suggère une autre question. Parce qu'on dit que la Tchétchénie est aussi le berceau des Amazones. Ou de cette tradition, et je me demande, est-ce que ces chants que tu nous transmets, est-ce que ils sont chantés par des hommes, par des femmes, c'est indifférent, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié
bonne question, à ça? Bonne question. Aznach Ensemble, donc c'est le seul groupe tchétchène à avoir tourné pendant 15 ans en extérieur, à l'extérieur de leur pays, et qui est fait principalement de femmes, donc il y a une partie de chants sacrés et une partie de chants traditionnels. Donc... pour ce qui est de la partie sacrée, les femmes se réunissent. Donc dans Aznach, il y a Raïssa, qui est la responsable religieuse de tous les Tchétchènes de Géorgie, des femmes tchétchènes de Géorgie. C'est la plus grande communauté soufie au monde de femmes. Et ces femmes se réunissent principalement pour des enterrements et font des chants de transe, des zikrs, comme cela vient de Turquie. Ce sont vraiment des zikrs. Et alternent toutes les heures avec un groupe d'hommes. Les femmes et les hommes ne chantent pas ensemble. Et en principe, surtout sur les chants sacrés, c'est sûr, ils ne chantent pas ensemble. Donc pour les offices, les groupes s'alternent entre hommes et femmes. Après, pour les chants traditionnels, la tradition vient de bardes qui chantaient des chants, qui colportaient ces chants à travers le Caucase. Et les troubadours tchétchènes étaient femmes. Et elles jouent les musiques, elles chantent, elles sont les seules à pouvoir le faire. Normalement, les hommes ne sont pas troubadours et ne transmettent pas les chants comme ça.
Voilà. Merci.
Et donc, tu nous proposes là un chant d'amour tchétchène, c'est ça ? Un
oui.
chant de ce récital-là, le genre
oui.
de chants qui vont être chantés samedi ?
Oui, ouais. oui, je peux vous en chanter un. Je n'ai pas pris ni ma balalaïka qui cet instrument que l'on dit russe mais qui nous vient d'Asie centrale, ni la balalaïka, ni le pandouri kazbek, qui est un instrument très particulier que l'on trouve encore au Daghestan. Ce sont des instruments qui sont proches de la culture, une autre petite parenthèse, de la culture mongole, puisqu'en fait, le nord de la Tchétchénie et du Daghestan touche la Kalmoukie, qui est une république de Russie au nord de la Caspienne, près d'Astrakhan, qui est entièrement bouddhiste et mongole. Donc je n'ai pas ces instruments, mais je vais vous chanter a cappella Heliepa. Heliepa, ça veut dire et soleil d'or. Donc et soleil d'or ne brille plus. Elle et moi sommes séparés depuis longtemps. Montagne, c'est comme ça, il n'y a rien à faire contre ça. Et en fait, l'homme ou la femme apostrophe les éléments naturels pour crier son amour, ou, voilà, un amour tout à fait humain. Est-ce que je prends ça ? Je sais pas. Helie pada shumar, siglar siedar chitov da shwarta, biaza mahaveli hoyeza chohamaveli daimuna. Kirara jahudwa kikuna jalalo daimuna. Makar zahudeli ho, makar zahudeli ho. Dilahina kirara jahudwa kiyuna jalalo daimuna makar zakhdali kha makar zakhdali kha dilahina hal ye pada shul marh siglar siedar chit hovra shwarta biaza mahaveli kho yeza chahmaveli daimuna kinchara maravla shulim nashu shutachu biaza mo malie pada shul marh khuna khidosuchu kenetashna Кинчара мадовла шулем нашу штачу без амо. Малие пау да шулмар хуна хидосучу кенеташна. Хелие па да шулмар сиглар седар чит овда шварта. Без амахвали хо еза чухамавали.
Merci beaucoup. beaucoup Yannick pour ce beau chant. Mmh. Et donc Merci. Une question peut-être toute simple, mais pourquoi chantes-tu et quel sens a le chant pour toi?
Je chante par amour. C'est quelque chose qui n'est pas... On devrait tous chanter par amour. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on n'ose pas forcément le dire. Mais le chant est une façon magnifique de se retrouver avec soi, de se faire plaisir, de s'aimer.
De faire vibrer.
De faire vibrer, oui.
Au faire... sens propre comme au sens figuré, peut-être.
De matérialiser, de mettre dans la matière quelque chose de profond qui vient du ventre, du cœur, enfin de tous ces, on pourrait dire, de tous les chakras. Oui, c'est pour ça que je chante, c'est pour transmettre ça. Et le chant est... Et c'est international. Je me suis retrouvé dans des situations perdues dans la montagne avec des Tchétchènes, où ça aurait pu vraiment mal se passer pour moi. Mais le fait d'être chanteur et aussi français, car la France bénéficie d'une belle image encore, ou bénéficie encore dernièrement d'une belle image de démocratie, de pays de liberté. Voilà, donc le chant permet de communiquer avec tous, quoi.
D'unifier
les gens, oui. Mm-hmm. Oui. Et puis, et pourquoi je le fais, pourquoi je le transmets, et parce que d'autres le font très bien, et pourquoi moi je souhaite transmettre ça, c'est que dans tout mon apprentissage de chant avec mes différents profs et ce que j'ai eu en France, enfin pour la partie française, il y a cette culture française qui ressort, bon gré mal gré, de si tu ne chantes pas parfaitement bien, il vaut mieux pas que tu commences à chanter. Et c'est dans notre culture. Enfin, maintenant, à présent, les gens sont devenus exigeants. Il faut vraiment bien faire les choses. Sinon, on bénéficie de frustrations. Enfin, on a des frustrations. Oui, il faudrait mieux que tu chantes et tout ça. Alors, dans des pays comme la Géorgie, comme dans beaucoup de pays, on chante avec naturel, avec joie, peu importe si on chante bien ou pas bien. L'important, c'est de chanter, de s'unir et de se faire plaisir. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aussi. C'est vraiment la joie d'être ensemble et de chanter. Et la joie d'être avec soi pour pouvoir la partager avec les autres aussi.
Oui, peut-être. Tu nous proposes un dernier chant ?
Oui.
Tu parlais d'un chant.
Oui, on avait aussi, alors peut-être on pourra finir sur ce chant, mais alors auparavant, peut-être qu'on peut parler de cette émission du vendredi soir, de certains vendredis soirs.
Oui.
Et puis, parce que là, le temps avance, comme ça on pourra se dire au revoir peut-être avant ton dernier chant. Et,
le temps passe, et finir on est musique. On est en plein monothéisme.
Le temps passe. Mais on peut réécouter à l'infini presque cette émission. Vraiment sur tous les tableaux.
Oui, donc...
Vibratia Chorus.
Vibratia Chorus.
Vibratia Chorus.
Alors oui, je suis très content de ce nom, déjà, je voulais le dire. C'est un nom...
Sonne bien.
Ah oui, c'est un nom qui sonne bien et dont je ne me lasse pas encore. Peut-être ça n'arrivera jamais d'ailleurs. Vibratia, c'est un mot géorgien qui veut dire la vibration. Et bon, comme on peut bien l'imaginer, c'est assez transparent. Et puis Chorus, c'est le groupe, j'avais vraiment envie de... Parce qu'au-delà de toutes ces religions, pour moi, il y a des vibrations. Le chant permet de se connecter à ces vibrations-là. C'est un outil vers le sacré, le chant. Et donc, ce sont des vibrations hertziennes qui s'harmonisent avec d'autres fréquences qui permettent d'atteindre des états comme la transe chez les soufis ou des états de paix intérieure, de silence, parce que la vibration, on ne peut reconnaître que la vibration que par le silence. Donc Vibratia Chorus, c'est une une sorte de, ouais, c'est un concept de vibration principalement porté par le chant à 1, 2, 10 personnes, c'est aléatoire. Vibratia Chorus, c'est donc aussi le nom de cette émission de chorale en direct, qui aura lieu, donc le Vibratia 4 aura lieu vendredi prochain de 19h30 à 20h30. Ou pour démystifier un peu les cours académiques de chant choral, nous sommes à la radio, donc à RDWA, de 19h30 à 20h30 pour donner un chant en direct, l'apprentissage d'un chant en direct. Ne pas avoir peur de parler en public et de se tromper. Ne pas avoir peur de se tromper et l'assumer. Et c'est la clé de l'apprentissage qui amène à la connaissance, là en l'occurrence d'un chant. En principe, on apprend un chant chaque vibratia. On a déjà travaillé un chant de remerciement tchétchène, un chant grec d'amour au potager entre deux plantes, et aussi la dernière fois un chant de soins, un chant de soins qui m'a été transmis par Boris Cholevka d'Amazonie. Ou un champ de refuge où on peut prendre refuge au pied de l'arbre pour évacuer autour de soi les mauvaises ondes, on va dire, les mauvaises vibrations. Et voilà, ce sont des outils aussi. Voilà, c'est vraiment le champ comme outil d'un bien-être et d'un bien-être de soi pour pouvoir rayonner. Voilà.
Et les personnes intéressées, elles t'appellent avant ou alors elles se présentent à la radio le
Il n'est pas nécessaire. Elles se présentent à la radio donc le vendredi à partir de 19h, histoire qu'on fasse connaissance un peu tous ensemble. Mmh. Et comme le Diwa a toujours un petit quart d'heure de retard, 19h c'est bien pour une émission à 19h30. Mmh. Mmh. Et donc on se retrouve, on place, on fait des essais de micro. Bon, la dernière fois, on a eu quelques petites bourdes. Et tout le monde touchait à tout, donc du coup tout était déréglé, mais enfin on s'est bien amusé et puis voilà, j'ai été surpris de la vitesse à laquelle les personnes présentes dans le studio ont pu intégrer ce chant quoi, et c'est intéressant, et l'émission est podcastée aussi, on peut la réécouter. C'est intéressant de voir la progression rapide qu'il peut y avoir quand on est détendu et qu'on a envie.
Donc le prochain, ce vendredi.
C'est ce vendredi-ci, mm-hmm. Oui.
Et puis ensuite, tous les 15 jours.
Voilà.
Et c'est vrai, pour avoir écouté cette émission, c'est très agréable d'être avec son transistor et de chanter aussi.
Merci.
C'est ça.
J'imagine, j'ai toujours... Bon, ça c'est une image, un peu une image d'Épinal, mais j'imagine toujours des mamies tout au fond de la vallée de la Drôme appuyées contre leur poêle à bois en train d'apprendre un chant de transe soufi tchétchène.
Oui.
Voilà, c'est possible.
C'est possible.
Eh bien voilà, donc sur Radio Diwa, il est midi moins le quart passé, disons midi moins 13 minutes, allez, bientôt midi moins 12 minutes. Et eh bien, il est temps de se dire au revoir avec amour, avec un grand A.
Oui,
un
oui.
Grand chant. Un chant lié à Jésus, c'est ça?
Oui, c'est encore un chant syriaque lié à Jésus. C'est un texte de saint Ephrem du 4e siècle, de la tradition maronite, qui dit « Gloire à la parole de Dieu qui s'est faite homme, la parole du Très-Haut a pris corps et sang. » Et là où c'est vraiment, je trouve ça intéressant, les oreilles l'ont écouté, les yeux l'ont vu, les mains l'ont touché, la bouche l'a goûté.
Shub Cholehoi Kolodachwo Gushmo Wale Melatro Dans la roue.